Chapitre 4. Pour ne plus venir le dimanche rue Girardon, Lutan n'avait pas rompu ses relations avec Faré. Au contraire, le temps les avait faites plus intimes, plus amicales. Ils étaient l'un et l'autre à peu près du même âge, ils soutenaient la même lutte, ils avaient les mêmes espérances, ils souffraient des mêmes déceptions. C'étaient là des points de contact qui devaient les rapprocher et qui les avaient en effet étroitement unis. Presque tous les soirs, ils remontaient ensemble à Montmartre, Faré sortant de son journal, Lutan de son théâtre, et il fallait que le temps fût vraiment bien mauvais pour qu'ils ne s'attendissent pas devant le passage Jouffroy où ils avaient coutume de se rencontrer. Alors, côte à côte, ou bras dessous, par les rues où les passants se faisaient de plus en plus rares à mesure qu'ils s'éloignaient du centre de Paris, ils marchaient lentement en causant. Quoi de neuf depuis hier ? Et chacun, à son tour, racontait ce qui lui était arrivé de neuf, ou plus souvent, ce qui ne lui était pas arrivé, les journées se suivant et s'enchaînant dans leur vie sans grand changement, c'est-à-dire sans la réalisation de ce qu'ils espéraient et de ce qu'ils attendaient. Où en sommes-nous ? Puis, après avoir constaté qu'il n'en était à rien et avoir dit son fait à la destinée, ils en venaient à causer d'eux-mêmes. Les rues étaient désertes. De temps en temps seulement, on entendait les pas pressés de quelques retardataires qui avaient hâte de gagner leur lit. Pour eux, maîtres enfin de leur volonté et de leurs paroles, après les besognes absorbantes de la journée, ils ralentissaient leur marche et prenaient possession du boulevard qui leur appartenait à eux seuls. Alors, quand la nuit était belle, ils allaient de la place Pigalle à la rue des Martyrs, tournant sur eux-mêmes, au grand étonnement des sergents de ville, de service dans ce quartier, et qui les suivaient de l'œil avec une certaine inquiétude. C'était l'heure de l'abandon et de la confiance où ils se confessaient en s'expliquant mutuellement leur caractère, non pas tant pour parler d'eux que pour chercher la confirmation de leurs espérances dans une approbation amicale. Au contact des réalités de la vie, le doute leur venait bien souvent. « Sincèrement, crois-tu que je serai jamais un auteur dramatique ?»« Sincèrement, crois-tu que je serai jamais un musicien ?» Et le musicien expliquait comment son ami avait toutes les qualités de l'auteur dramatique, tandis que, de son côté, celui-ci expliquait que le musicien était né pour être un compositeur de talent. Puis arrivaient les graves questions esthétiques. « Moi, voici ce que je comprends. » Moi, voilà ce que je voudrais. Les statues des morts et des vivants démolies, ils voyaient plus clairement leur avenir. Alors ils s'animaient, ils marchaient plus vite, et si l'heure de se séparer était venue, Lutan conduisait Faré jusqu'au haut des buttes. Par les rues qui descendaient droit, ils voyaient Paris, qui, sous son ciel rouge, s'étalait confusément devant eux. Sois tranquille, disait Lutan. Ton nom emplira cette ville qui dort sous nous. » Mais quelquefois aussi, ils abordaient des questions qui, pour être moins hautes, ne les passionnaient pas moins, celles de leur vie intime. C'était beau d'être un jour des hommes glorieux, mais c'était quelque chose aussi d'être des hommes heureux. Sous ce rapport, Lutan était plus facile à contenter que Faré. Il ne demandait à la femme que la beauté ou l'éclat. Il ne tenait pas à être aimé. Surtout, il ne voulait pas aimer. La passion l'effrayait. Cela encombre et dérange. Ce qu'il lui fallait, c'était une belle maîtresse qu'il prenait aujourd'hui et qu'il quittait demain, sans qu'elle pût troubler son existence de travail ou dévoyer ses idées. L'art devait être chasse, au moins pendant le temps nécessaire à la production d'un opéra. Pour Faré, au contraire, la femme était tout, mais la femme capable de tendresse et de passion, qui aimait et se faisait aimer, qui prendrait sa vie et lui donnerait le bonheur, qui l'inspirerait et le soutiendrait. En l'entendant parler ainsi, Lutan haussait les épaules et lui disait « Quand tu l'auras trouvé, fais-moi signe. » Comme il lui répétait cela pour la 20e fois peut-être, le lendemain du jour précisément où Geneviève avait conté ses inquiétudes à son ami Faré, celui-ci lui répondit « Je l'ai trouvée. Je la connais. Parfaitement. » Lutan devint sérieux. C'était d'une de ses sœurs qu'il s'agissait sans doute, de Sophie assurément. Il était tout heureux à la pensée que Faré allait devenir son beau-frère, Leur amitié n'en serait que plus étroite, et puis Sophie ne pouvait pas trouver un meilleur mari. Il marchait à côté de Faré, il lui prit le bras et le serra. « Tu as deviné ?» dit Faré. « Dame !»« Comment cela m'est venu, n'est-ce pas, en la voyant si gentille, si jolie, si bonne, si simple, si intelligente, si richement douée ?» Luttant n'avait pas vu tout cela dans sa sœur, mais enfin, ce n'était pas à lui d'élever la plus légère contradiction. Puisque Faré la voyait ainsi, c'était parfait. Et puis elle est si tendre, si affectueuse pour sa mère. Ce n'est que juste. Oui, mais si douce, si indulgente pour son père. Comment indulgente? Est-ce qu'il ne faut pas être doué d'une dose exceptionnelle d'indulgence pour accepter M. de Mussidan avec ses idées et ses exigences? Luttant fut un moment avant de se remettre de sa surprise. « Mais c'est une gamine !» s'écria-t-il. « Et c'est bien là ce qui rend ma situation si embarrassante. Bien entendu, elle ne sait pas que je l'aime. Tu dois bien penser que je ne le lui ai pas dit et que je serais malheureux, que je serais honteux qu'elle l'eût deviné. Ce n'est pas moi qui voudrais troubler cette innocence d'enfant d'un mot ou même d'un regard. Je n'ose presque plus jouer avec elle. Je n'ose plus la balancer. Quand elle me regarde, je baisse les yeux. Et quand nous causons ensemble, je lui parle comme à une personne extra-raisonnable. Ainsi, hier, elle a passé l'après-midi à la maison. Nous nous sommes promenés en tête-à-tête dans le jardin et elle m'a confié ses chagrins. Ah, elle a des chagrins ? Des inquiétudes pour son avenir. Elle doute d'elle, de son talent. Elle a peur de ne pouvoir pas être pour ses parents ce qu'elle aurait voulu. Eh bien, j'ai été parfaitement ridicule, mon cher. Sérieux, compassé, nous n'avons parlé que d'argent, quand j'aurais tant voulu lui dire, en lui prenant les mains dans les miennes, en la regardant avec toute la tendresse qui était dans mon cœur. Compte sur moi, chère petite Geneviève, sur moi qui t'aime et qui veux être ton mari. Tu l'aimes, tu l'aimes. Mais comment l'as-tu aimée? Depuis quand l'aimes-tu? Depuis que je la connais, mais pas du même sentiment que j'éprouve maintenant. J'avais pour elle une affection attendrie, pour sa grâce, pour son courage, peut-être bien même de l'admiration pour son talent. Puis, quand l'enfant est devenu une jeune fille, j'ai été touchée par sa beauté, il s'est passé en moi quelque chose de mystérieux que je n'ai pas analysé, et je l'aime. Quelle drôle d'histoire! Voilà une aventure qui te promet de l'agrément, car enfin, tu l'aimes pour l'épouser, n'est-ce pas? Mais assurément! Eh bien, et le père? Monsieur le comte de Mussidan, qui compte parmi ses ancêtres Sébastien de Mussidan et Guillaume de Puylaurens, crois-tu que monsieur le comte de Mussidan, fier de son nom comme il l'est, acceptera pour gendre monsieur Ernest Faré, un effaré, comme il dit dans ses jours de dédain, quand il n'a pas besoin de toi? Et ce n'est pas tant le père qui m'effraie que la fille. Mets-toi un peu à ma place et vois combien ma situation est difficile. Je ne peux pas lui dire que je l'aime et cependant, d'autre part, je ne veux pas qu'elle perde les sentiments de tendre affection qu'elle m'a montrés depuis qu'elle me connaît. Je vois, mais je t'avoue que je ne comprends pas grand-chose à toutes ces susceptibilités-là. Il me semble que quand on aime une femme, c'est pour le lui dire quand on n'a pas autre chose à faire. Faré ne releva pas ce qu'il trouvait de grossier dans ses paroles. Il continua. « Ce que je voudrais, ce serait qu'elle fût assez femme pour me deviner, pour comprendre à demi-mot. Et si elle ne te devine pas, si elle ne comprend pas à demi-mot, vous serez alors, comme cela, sérieuse et compassée en parlant d'argent, jusqu'à... Jusqu'où irez-vous? Jusqu'à son mariage avec un autre qui aura parlé un langage intelligible? J'irai jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans. Une fille qui est d'âge à se marier peut entendre des paroles d'amour. Est-ce que le Code ne dit pas qu'il est loisible au président de la République d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves? Si tu demandais au président de la République une dispense pour parler d'amour, en voilà une situation d'opérette. Il prit une voix de femme et chantant « Monsieur, avez-vous une dispense pour me dire ça ?»« Trouve-moi plaisant si tu veux, moi je me trouve honnête. dit Faré sans se fâcher. Sais-tu ce que je trouve ? C'est que cette situation va se prolonger assez longtemps encore. Ça te fera faire des vers et je les mettrai en musique.